Chers amis, bonjour. Le texte qui inspirera nos réflexions aujourd'hui est très connu. Il s'agit de l'épisode de la tempête calmée. Voici en quels termes l'évangile selon Marc nous le rapporte. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, apaise-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous eu peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Derrière cet événement qui plongea les disciples dans un mélange de crainte et d'admiration bien compréhensible, il n'est pas difficile de déceler une autre réalité, mais spirituelle, à savoir la présence rassurante du Christ dans les tempêtes de la vie. La traversée d'un bord à l'autre de la vie ne se fait pas sans peine. On rencontre parfois des vents contraires qui viennent dévier le cours de nos projets. Pour parler de manière plus concrète, nous rencontrons parfois des difficultés qui semblent être assez grandes pour nous faire chavirer. Difficultés familiales, professionnelles, la guerre, les tentations de toute nature, les critiques et accusations injustes, voire la persécution, la maladie aussi et la mort. Même si le Maître est notre passager dans la nacelle de notre vie, la tempête est quand même inévitable. Elle peut survenir avec une effrayante soudaineté, une grande déception, l'accablement d'un immense chagrin, un échec écrasant. Ou bien, elle peut se lever progressivement comme un nuage à l'horizon pour assombrir bientôt toute notre vie, tout notre ciel, jusqu'à voiler l'éclat du soleil. Toute la vie de Jésus parmi les hommes nous apprend, et l'épisode de la tempête calmée nous le confirme, que Jésus n'est pas venu pour nous épargner la tempête ou pour la supprimer, il est venu pour nous apprendre à la braver, à la surmonter, avec lui. Puisque les tempêtes sont inévitables, il convient de nous demander quelle doit être notre attitude, notre comportement, lorsqu'elles se présentent. La douce réprimande de Jésus à l'adresse de ses disciples nous rappelle que la foi est un bouclier indispensable pour braver les assauts de l'adversité. C'est au sein de l'épreuve que la foi se forge, comme nous le verrons. Hélas, c'est aussi à l'heure où les vagues se jettent dans la barque que la foi de beaucoup fait naufrage. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas grandi. Elle est restée sous-alimentée, sous-développée. Alors, lorsqu'on fait appel à elle, elle n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend d'elle. Ses reins sont trop faibles pour le fardeau qu'on voudrait qu'elle porte. Ses épaules trop malingres, sa vie à peine palpitante. Et c'est l'écrasement, la débandade intérieure, la révolte, puis l'abattement amer de l'échec. Cela ne veut pas dire que l'homme qui a pris soin de son homme intérieur, comme l'appelle l'apôtre Paul, c'est-à-dire de son âme, est à l'abri de toute défaillance. Mais il est quand même mieux équipé. En cela, je suis presque reconnaissant aux apôtres d'avoir eu peur dans cette tempête, car ils m'auraient paru surhumains, pour ne pas dire inhumains, dans leur foi, s'il en avait été autrement. Mais ils ont eu peur du danger, peur de la souffrance, peur de la mort. En cela, ils nous ressemblent. Nous sommes comme eux. Mais le Seigneur nous aime quand même comme il les a aimés. Ce qu'il désire, c'est que nous apprenions, au fil des grains que nous rencontrons pendant la traversée, à mobiliser toute la foi, toute la confiance dont nous sommes capables pour vaincre nos appréhensions, faire s'évanouir nos craintes et attendre en silence le temps qu'il faudra que vienne son secours. Avez-vous déjà lu les Lamentations de Jérémie ? Ce livre de l'Ancien Testament porte un titre plutôt décourageant et rébarbatif, je vous le concède. Pourtant, ces lamentations sont loin d'être des jérémiades. Elles contiennent, à mon avis, le plus beau chant d'espoir de toute la Bible. C'est vrai que Jérémie pleure car Jérusalem est dévastée. Ses habitants sont morts ou emmenés en captivité après un siège dont l'horreur a rarement été égalée dans toute l'histoire des guerres. Après avoir repassé en son cœur les scènes épouvantables qui le font frémir et gémir, le prophète s'apaise un peu pour donner place à la réflexion et à l'espoir. Écoutez, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. il se rassasira d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Quel merveilleux champ d'espoir! Quelle lucidité dans l'épreuve! Hélas, dans notre désarroi devant les nuages, nous pensons que le Seigneur, que le soleil n'existe plus. L'étoile de l'espoir est cachée. Nous perdons l'espoir parce que la foi chavire, car l'espérance est sœur de la foi. Au lieu de nous rendre maîtres de nos craintes, nous laissons la peur s'emparer de nous et nous finissons par nous réfugier dans une sorte de résignation prostrée qui est parente de la révolte. L'Évangile n'a pas ce visage-là. Il est au contraire tendu avec confiance vers tout à l'heure, vers demain, vers l'avenir, vers l'espoir, même si ses mâchoires sont serrées dans l'effort. Il faut aussi nous poser cette autre question. Pourquoi l'épreuve? Que m'apporte-t-elle? À part la souffrance. C'est vrai que l'épreuve, la tempête, est d'apparence cruelle, mais elle apporte souvent avec elle, paradoxalement, de riches bénédictions que nous sommes loin de soupçonner. Mes chers amis, mon propos n'est pas de faire une froide et savante dissertation sur les bienfaits de la souffrance. J'aborde toujours ce sujet en tremblant, car je sais dans quels abîmes épouvantables la souffrance peut plonger un être humain. Je me sens presque coupable de vous parler d'une voix qui respire la bonne santé, à vous qui êtes peut-être sur un lit de souffrance, ou la proie d'une tourmente intérieure. Ce que je veux que nous fassions ensemble, c'est d'interroger notre Seigneur. À qui irions-nous s'il n'y avait pas notre Seigneur? À lui, on ne peut pas lui dire « Tu ne sais pas ce que c'est, toi, la souffrance ». Alors, à travers nos larmes, nous pouvons essayer de comprendre pourquoi il permet que notre barque soit parfois assaillie par les vagues. Ce que nous savons d'abord, c'est que l'épreuve révèle le caractère. La solidité d'une maison ne se vérifie que lorsqu'elle a été éprouvée par le temps et les éléments. Si elle comporte quelques failles, quelques points faibles ou vulnérables, ce sont eux qui se manifestent d'abord. Ce n'est pas le vent qui provoque les faiblesses, il ne fait que les révéler. Personne ne connaît la force ou la faiblesse d'un cœur avant d'avoir vu comment il se comporte au milieu de la tourmente. L'auteur des Croix de bois, Roland d'Orgelès, parle de cette révélation du véritable caractère des hommes devant l'épreuve du feu. Tout ce qui, dans la vie normale, reste enfoui, s'est brusquement fait jour, écrit-il. Le meilleur et le pire, d'un seul coup, ont été décuplés. Jamais on ne vit tomber tant de masques. L'auriez-vous soupçonné que tel homme était un lâche et tel autre un héros? L'auriez-vous cru qu'en donnant un soupçon d'autorité à ce personnage insignifiant, vous en feriez une brute arrogante? L'auriez-vous supposé que les incartades de cet adolescent agaçant n'étaient que les explosions d'une bravoure inemployée? Il fallait la guerre pour révéler leur caractère, mettre leur cœur à nu. Certes, cette tuerie fut atroce, mais de son atrocité même devait jaillir de la grandeur, et je n'ai jamais tant admiré les hommes que durant ces années-là. Ce que Roland d'Orgelès dit de la guerre, nous pouvons le dire de l'épreuve dans la vie d'un croyant. C'est vraiment le moment de vérité. Souvenez-vous du grain tombé dans le terrain pierreux dans la parabole du semeur. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, explique Jésus. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La barque chavire et c'est le naufrage. Mais celui qui est préparé, celui qui est averti, celui-là trouve dans l'épreuve même de quoi se fortifier le cœur et la foi. Lorsque Dieu veut forger une âme, il ne la protège pas contre toute difficulté, il ne lui épargnera pas toutes les tempêtes, au contraire, il expose souvent au soufflet des vents contraires pour que cette âme s'affermisse et se fortifie et que les autres puissent trouver en elle un exemple et un appui. Demandez aux grands hommes du passé quel a été le point déterminant de leur force ou de leur génie. Demandez à Abraham, il vous indiquera la colline de Moria où Dieu lui demanda de sacrifier Isaac, son fils unique. Demandez à Joseph, il vous parlera de ses frères jaloux et de sa prison. Demandez à Job, il vous dira que Dieu lui a parlé dans sa souffrance. Demandez à Milton, il vous montrera ses yeux sans vie. Demandez à Paul, il vous parlera de l'humiliant chemin de Damas, de ses travaux et de ses combats pour l'Évangile. À cela, l'Écriture nous dit, nous donc aussi, Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Il faut souligner autre chose encore, c'est que la tempête rapproche le navigateur de son Dieu. « Maître, maître, nous périssons », disent les hommes effrayés, et bientôt le cœur est de nouveau rasséneré. Je me souviens d'un jour de grand vent. Au troisième étage de l'immeuble où nous habitons, les hurlements du vent sont particulièrement lugubres. Mon petit garçon de 2 ans et demi était assis dans un fauteuil feuilletant les pages d'un livre d'images. À ce moment, le vent hurla plus fort que jamais, faisant vibrer la porte-fenêtre et tressaillir mon fils. Il leva aussitôt vers moi de grands yeux effrayés, cherchant à voir sur mon visage si moi aussi j'avais peur. Mais voyant que je lui souriais, il me sourit également et continua à feuilleter son livre. Papa était là et il n'avait pas peur, alors tout allait bien. Quelle grande leçon et quelle preuve de confiance il venait de me donner là. Et j'ai pensé immédiatement combien il doit être agréable à Dieu notre Père d'accueillir ainsi nos témoignages de confiance. Souvenez-vous de ces douces paroles de Jésus, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. » Ainsi, au temps de l'épreuve, le chrétien, le croyant, doit s'efforcer de distinguer, de discerner la volonté de Dieu et de s'examiner lui-même. Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Comment voudrait-il que je me comporte? Car l'épreuve est plus aisément supportable lorsque son sens, sa raison d'être nous apparaît clairement. Mais il arrive que ces questions demeurent sans réponse dans l'immédiat. Il arrive que l'âme assaillie ne comprenne pas, ne comprenne plus. Dans ce cas, comme le remarque admirablement le commentateur Frédéric Godet, « Je dois m'efforcer de boire la coupe amère uniquement en raison de la main qui me la présente. » À cette pensée, j'embrasse ma croix avec tout ce qu'elle a de mystérieux, d'inexplicable, et avec ce précieux fardeau, je me jette, les yeux fermés, dans les bras du Dieu dont le nom, emprunt sur chacune de ses œuvres, est sagesse.